Nous sommes le jeudi 25 septembre, il est 21h sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéo ludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Eh ben plutôt bien. Ça fait plaisir de faire une petite émission ensemble.
Mais oui, ouais, ouais, c'est ça. Une fois qu'on a viré tous les gens compétents, qu'on peut et que alors, on s'en sent moins jugé, en fait, c'est ça.
C'est pas ça l'idée. C'est juste que bah ça fait un peu old school.
Oui, c'est vrai.
C'est un petit peu. Le retour aux sources.
Et oui, bah Romain qui réalise cette émission et qui exceptionnellement a décidé cette semaine de que vous ne méritiez pas de connaître les nouveaux titres annoncés sur PC en général et sur Steam en particulier, vu qu'il n'y a pas eu hier sur sa chaîne Twitch Ruven avec underscore d'émission à vos souhaits. Romain, la France te demande des comptes.
Eh ben, écoute, la France n'a qu'à bien se tenir parce que ça attaque demain. En fait, j'ai reporté à demain. Hier, je travaillais. Demain, je travaille pas. Donc, c'est demain.
D'accord. Ah, donc...
demain, 13h, sur la chaîne, effectivement, émission à vos souhaits, où je vous parlerai des jeux que j'ai ajoutés à ma wishlist. Et finalement, c'est une grosse excuse pour parler de l'actualité du jeu vidéo. Et ce sera toute une bonne partie de l'après-midi, je pense.
Ouais, il va parler de ADS2, quoi.
Alors.
En gros.
Il y a beaucoup d'autres trucs qui se sont passés. ADS2, c'était aujourd'hui.
Il va parler d'ADS2 toute la journée. En tout cas, si j'animais son émission, moi, c'est ce que je fais.
Exactement. Et c'est pour ça que tu n'animes pas cette émission. Mais par contre, tu animes celle-ci.
Oui, effectivement. Et d'habitude, on l'anime avec Bettina. Et si ce soir, Bettina n'est pas avec nous, c'est parce qu'elle est en train de participer au Game Créalable, au Pôle Pixel de Villeurbanne. Le Game Créalable, en fait, qui est une résidence d'écriture de concepts de jeux vidéo qui accueille durant 15 jours 4 équipes créatives porteuses de projets au stade de la conception. Et ce soir, en fait, elle est à la soirée de restitution des travaux accomplis par les équipes. Il s'agit donc de présentation des projets qui ne sont encore qu'à l'étape de conception, donc pas encore de démo jouable, mais c'est une bonne occasion pour elle de récupérer des futurs projets intéressants pour vous en parler dans des futures émissions.
Cool, en tout cas c'est le genre de projet intéressant, ouais, qui montre un petit peu finalement la richesse et l'activité toujours en créative. Dans le domaine du jeu vidéo, effectivement, et notamment à Lyon, avec tout, finalement, ce que le pôle démographique permet, et puis aussi au niveau des formations, au niveau de plein de choses, finalement. On est plutôt bien lotis dans la région, effectivement, en termes de création, oui. Que ce soit de jeux vidéo ou autre, mais notamment de jeux vidéo, que ce soit, comme tu disais, c'est spécifiquement sur les idées, les concepts. Et pas seulement
oui,
la réalisation
parce qu'il y a aussi des game jams, il y a aussi
sur
des aspects plus techniques, il y a aussi tout ce qui est Lyon Game Dev sur des aspects différents, que ça soit des aspects plus de distribution, des aspects commerciaux, des aspects techniques, des aspects de création, de conception, etc. Donc et qu'il y a toujours des activités. Là, je cite Lyon Game Dev parce que c'est le principal. Que je retiens, mais il y en a quand même pas mal d'autres aussi, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'initiative sur Lyon. On retrouvera Bettina bientôt. Et cette semaine, de quoi on va parler ? On a deux sujets principaux. Le premier sujet est Tomb Raider les voix fantômes. Tomb Raider et les voix fantômes, on va dire.
Il y a un peu de ça, ouais. C'est pas idiot comme
voilà.
Ça ferait un bon épisode de la série.
C'est ça.
Tomb Raider contre les voix fantômes.
On va dire Tomb Raider contre les voix fantômes d'abord, et ensuite on parlera des affres de la hype. Selon un article publié sur le site Gamekult qui nous a fait plutôt réagir et qui est en soi,
qui va nous servir de point de départ
pour parler de ce phénomène qui a lieu dans à peu près toutes les sphères d'activité et de quand on met de la nouveauté, la hype.
Ouais.
Voilà,
essayer de définir un peu ce que c'est, comment ça se manifeste et quel est le rôle que ça peut avoir dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui.
Voilà,
et puis depuis longtemps. Finalement,
voilà, et puis forcément, on partira du phénomène Silksong qui est donc le point de départ de cet article-là, en tout cas.
Mmh. Ok.
Commençons par Tomb Raider. Si ça te va bien.
Vas-y.
Plusieurs mois après, il y a eu la sortie de Tomb Raider 4 à 6. Alors, remettons les choses dans l'ordre. Tomb Raider, c'est une série de jeux vidéo qui a commencé au milieu des années 90. Il y a eu beaucoup de Tomb Raider qui sont sortis les uns après les autres entre 95 et...
Quoi, 2002 ?
Et 2002,
la première,
à peu près.
La première phase, en fait,
la première
de
phase,
l'histoire.
Voilà. Ouais. Ensuite, il y a eu, on va dire, quelques tentatives avant un reboot qui arrive en 2013.
C'est vrai, qui a donné lieu à une trilogie, lui aussi.
Voilà. Là, ce dont on parle, c'est que le développeur Aspyr, via le détenteur des droits. Donc,
Crystal Dynamics.
Je suis pas certain en fait parce que
Square Enix a vendu
à la découpe. C'est un petit peu compliqué de savoir.
Oui, alors c'est vrai qu'à l'origine, mais à l'origine même encore, c'était Crystal Dynamics avec Eidos qui était éditeur de ça. Bref,
ouais.
C'est vieux, c'est années 90.
Je crois que même c'était Core avant.
Core Design.
Après Crystal peut-être. Dynamics, c'est bon. En gros. La prochaine fois qu'on voudra parler du lore et de à qui ça appartient, on invitera Julien.
Oui, voilà. Lui, il a joué au jeu.
Voilà.
Il a lu des livres sur le jeu.
Ouais.
C'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent dans cette émission.
Oui, mais justement, si on fait une émission à deux, c'est parce qu'on
voilà,
va parler,
exactement.
On ne sait pas de quoi on parle.
En vrai, un minimum.
Ouais, voilà. Donc, bref, les Tomb Raider, ça a été des jeux auxquels beaucoup de gens ont joué.
Qui ont été des phénomènes un petit peu même médiatiques autour de ça, autour du personnage de Lara Croft.
C'est ça.
Lara Croft qui est devenue un petit peu une icône dans la pop culture en général. Il y a eu des films, il y a eu séries qui sont en préparation.
C'est ça. Et les ayants droit se sont dit est-ce qu'on pourrait se faire un petit billet en rééditant les vieux jeux des années fin années 90 début 2000 parce que la nostalgie c'est bien, ça rapporte du pognon.
C'était donc des remasters à différencier des remakes, c'est-à-dire qu'en fait ils ont simplement repris les jeux d'origine et ils ont mis une petite couche de polish dessus, ils les ont rendus jouables sur les machines modernes,
voilà.
Sur les écrans modernes, parce qu'aujourd'hui on a des écrans qui n'ont plus du tout les mêmes tailles, les mêmes résolutions qu'à l'époque. Et du coup voilà, enfin c'était principalement le concept des remasters, de les rendre plus agréables et accessibles à un public d'aujourd'hui, mais on refait pas le jeu depuis le début.
Ah non, là le but c'était clairement en fait, on va prendre le gameplay de l'époque, on va faire exactement le même jeu, on va juste faire en sorte que il soit adapté aux résolutions d'aujourd'hui, c'est-à-dire que
puis au même graphisme, il y a eu un petit peu de travail aussi dessus.
Voilà, c'est ça.
Les lumières, etc.
C'est exactement. En fait, le but c'est que ce soit exactement le même jeu dont on se souvenait.
C'est ça.
Les mêmes bugs, les mêmes.
Oui, parce qu'il n'y a pas eu de travail là-dessus.
Oui, voilà.
C'était pas le projet. Le projet, c'est vraiment.
C'est pas d'en faire un meilleur jeu, c'est de pouvoir jouer à ce jeu-là maintenant.
Et puis de faire un minimum d'effort aussi visuel.
C'est ça.
Malgré tout, il a quand même une petite surcouche visuelle qui le rend un poil plus agréable aux yeux.
C'est ça. Et donc, un truc qui est important aussi, c'est qu'ils ont aussi repris les voix des personnages.
Mm-hmm.
Dans Tomb Raider, la plupart des personnages sont doublés. Les dialogues dans plusieurs langues, hein, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le français et autres, ont été repris des versions originales pour être remises.
Dans les versions remasterisées,
à limite, la seule chose qui a été fait, c'est un traitement au niveau de la voix pour que les voix paraissent plus claires avec les moyens d'enregistrement de l'époque.
Okay. Okay.
Dès les premières, en fait, le truc, c'est que quelques mois après la sortie de ce jeu, parce que ce jeu-là est sorti
courant 2024.
Courant 2024,
je crois.
Un petit bout de temps.
Si je dis pas de bêtises.
Fin 2024, il me semble. Et en fait, le truc, c'est que Aspyr, qui a fait le développement, a publié un patch qui permettait de retrouver quelques lignes de dialogue supplémentaires pour Lara Croft sur les niveaux d'entraînement de Tomb Raider 5 et 6, même en français. En fait, dès les premières minutes du jeu, les joueurs avaient pu constater que certains éléments de ce tutoriel posaient problème. Parce que l'héroïne avait la même voix habituelle qu'en français, mais ça sonnait très robotique et ces voix n'existaient pas auparavant.
Alors, juste pour un petit détail, il est sorti le 14 février 2025. Mais... Okay. Ça change pas grand-chose au projet. Voilà. Ça change pas grand-chose au propos.
Oui, parce que le patch en question a eu lieu cet été.
Si voilà, c'est ça. Donc plus de 6 mois après la sortie du jeu.
Voilà. Donc il y avait deux solutions. Soit en fait les acteurs de l'époque ont été rappelés pour faire ce doublage-là. Mm-hmm. Soit en fait on a utilisé un stratagème, c'est-à-dire qu'on a utilisé de l'intelligence artificielle pour prendre des voix témoins de ces acteurs-là pour leur refaire dire d'autres choses. Et au vu du résultat, il s'agissait voilà de contenu redoublé par une IA basée sur la voix de Françoise Cadol, celle-ci n'en ayant pas été informée, en tout cas pour la version française.
Mais surtout que voilà, elle a été très très vite repérée. Le fait que ce soit une IA qui reprit son truc, et d'ailleurs elle a été très très vite vocale sur le sujet.
Et le truc en fait, c'est que, alors nous on en a beaucoup parlé en France, parce que la France a une certaine culture de la
du doublage français,
de la qualité du doublage français, et un attachement aussi aux acteurs de doublage, acteurs et actrices de doublage. Il faut savoir que le problème était le même en version anglaise et dans les autres langues.
Alors, il y a eu effectivement, oui, j'avais vu la même réaction finalement de l'actrice Lene Bastos.
Oui, c'est ça.
Pour la version portugaise, portugo-brésilienne.
Mm-hmm, c'est ça.
Enfin, lusitano-brésilienne, du coup.
Voilà. Si donc, ça a été le cas pour toutes les langues dans lesquelles il y avait une version déjà disponible dans les années 2000 lorsque les jeux ont été faits.
Mm-hmm.
C'est juste pour dire qu'on a beaucoup entendu parler en France par rapport à l'action de Françoise Cadol, dont on va parler juste après.
C'est ça, parce qu'elle a
mais
été,
il faut savoir que c'est pas un problème uniquement sur la version française. C'est une version, c'est en fait un truc qui s'est fait sur toutes les langues disponibles
dans le jeu.
Dans le jeu.
Mm.
En fait, Françoise, en fait, le truc, c'est que l'actrice, elle a déclaré au début, en fait, qu'elle était en train d'essayer de comprendre ce qui se passait, parce qu'en fait, beaucoup d'internautes l'ont interpellé les réseaux sociaux en fait pour lui dire attends regarde
il y a un truc qui va pas
en fait. Et en fait elle est passée à l'attaque via une mise en demeure envers Aspyr, je sais pas si on dit Aspyr, je sais pas trop,
on va dire
Aspyr en tout cas, Aspyr, le 11 septembre dernier.
Donc oui, très récemment.
Donc en fait elle a révélé cette mesure en fait, qui est appuyée par le soutien de son avocat Jonathan Eklaim, qui est spécialisé dans les droits face à l'IA, cet avocat déclare avoir contacté Aspyr pour rectifier tout cela et demander que la compilation soit retirée des ventes.
Oui.
Voilà, parce que, alors je cite l'avocat, notre demande c'est que la compilation soit retirée avec des justificatifs pour connaître le nombre d'exemplaires vendus. Aspyr est informé, à eux de nous répondre assez vite pour pouvoir stopper les ventes. La décence aurait été d'informer le public concerné que ce n'était pas sa voix. L'entreprise n'aurait pas été dans les clous, mais au moins elle aurait eu la décence de respecter le devoir d'information. Là, il trompe même les consommateurs. De son côté, Françoise Cadol rappelle que ce sont justement les consommateurs et fans de Tomb Raider qui ont découvert tout cela, plutôt que de la brande de la bouche du studio. Elle dit notamment en fait que ce sont les acheteurs de la compilation qui se sont rendus compte que la voix de Lara Croft, qui note des indications de jeu, n'était pas celle de Françoise Cadol, et ça a fait un vrai tollé auprès de la communauté. Et d'ailleurs, de ça, c'est pour ça que ce tollé a été tellement grand que nous, on en a entendu forcément en France parler sur les sites français, mais ça a été aussi relayé via l'action qui a été menée en France d'abord sur les sites aussi américains et internationaux de l'affaire.
Ça a pris beaucoup de, d'ampleur.
Ce qui sera important dans la réaction qu'aura Aspire un peu plus tard, en fait. Évidemment, lorsqu'on on parle de cette action-là, on doit aussi parler, en fait, de l'action d'un collectif qui s'appelle Touche pas à ma VF. Forcément, en fait, qui est interpellé, un collectif qui existe depuis longtemps, en fait, qui souhaite être entendu par l'État afin que des mesures plus générales sur, soient prises pour légiférer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un monde, en fait, du doublage très mis en danger par cette technologie-là, en fait. Et voilà, Touche pas à ma VF, et c'est soutenu par... Je ne vais pas dire l'intégralité, mais l'immense majorité des comédiens de doublage français.
Mmh. Dont Françoise Cadol était déjà une figure du mouvement.
Et vocale.
Donc c'était peut-être pas la meilleure idée d'Aspire de jouer avec sa voix à elle.
Sachant que, voilà, on pourra aussi parler de. On pourra, comme figure, par exemple, qui a été très concernée et très vocale sur le sujet, on peut parler de Pascal Chemin, notamment. Mmh. Pascal Chemin, qui est une des voix de je ne sais plus quel personnage de Apex Legends.
Apex Legends, oui.
Et qui, justement, a révélé que lors d'une mise à jour de Apex Legends, les différents comédiens qui doivent doubler en fait les différents héros donc du jeu, en fait, plutôt que de les faire venir à une barre, on leur a envoyé un contrat pour qu'ils acceptent tout simplement
qu'on fasse le boulot à leur place, quoi.
Que l'IA fasse leur boulot à leur place. Et en fait, l'intégralité du casting français a refusé. J'ai pas suivi le reste. Je sais pas.
Cette vieille bande de Gaulois réfractaires, voilà, comme on dirait.
Justement, je sais pas s'ils ont pris 31 personnes différentes, ce qui est très possible. Parce que je ne suis pas assez le lore et les sorties du jeu Apex Legends. Mais sachant que, voilà, au niveau de la fanbase, souvent c'est pas très bien reçu quand les héros changent de voix, etc.
Oui, il y a vraiment un vrai attachement, et finalement, ça fait partie d'un des. C'est une des raisons du succès du jeu, d'ailleurs.
Il y a
cet attachement au perso. Ouais.
C'est ça. Ce qui fait que, en tout cas, le 11 septembre, demande Claire à Aspire de retirer le tout des ventes et d'arrêter les conneries. Article et demande relayée dans toute la presse française et internationale. Ouais. En catimini, qu'arrive-t-il le 19 septembre?
Une mise à jour?
Aspire met à jour. Et met à jour le jeu, en fait. Explique la décision dans une note de correctif de retirer tout le contenu vocal fait par IA. Évidemment, sans annoncer, redoubler les séquences avec une voix humaine, parce que peut-être pas déconner.
Non, ils ont juste viré le contenu. Voilà. Il n'y a rien qui a été rajouté en échange.
Et sachant que le communiqué est vraiment lapidaire et très court. Nous avons résolu le problème en supprimant tout le contenu vocal généré par IA, tout en conservant les améliorations apportées lors de la mise à jour précédente. Nous nous excusons de la gêne occasionnée.
Ah, ils ont précisé aussi, un correctif vient d'être publié, afin de résoudre le problème lié au contenu généré par IA non autorisé.
Oui, voilà.
Donc, ils reconnaissaient dans le contenu, dans le correctif, qu'ils avaient utilisé du contenu non autorisé.
C'est ça. C'est pour ça.
C'était déjà une première reconnaissance, une première victoire, finalement, du mouvement contre ça.
Effectivement. Et c'est pour ça que je m'étais posé la question, est-ce que Aspire a cru à un moment, est-ce qu'ils ont pu se sentir dans leur bon droit en ajoutant ces dialogues par IA, en se disant... C'est ça, pas le côté on fait un truc mal, ça va passer, mais ils se sont dit peut-être que.
On a le droit, vu les contrats qu'on a signés, tout ça.
Voilà.
Bonne question.
Parce que c'est très possible. Parce que je me suis référé aux accords passés à partir de janvier 2024. En fait, il y a le syndicat SAG-AFTRA, qui est le syndicat, en fait, c'est un syndicat. Professionnels américains qui représentent plus de 160 000 acteurs, des figurants, tout ça dans le monde, dans les médias, tous ceux qui travaillent pour le cinéma, pour la télévision, pour la publicité.
Pour l'audiovisuel en général, ouais.
Pour l'audiovisuel, pour les jeux vidéo aussi,
ouais,
pour la radio.
Voilà. Tout inclus.
Ils ont tout inclus, en fait. Et il se trouve qu'il y a eu une grande grève, notamment par rapport à l'utilisation de l'IA en général, et en particulier pour tout ce qui est voice-over, donc pour tout ce qui est doublage. Et il y a une grande grève contre l'utilisation, mais pour la régulation de cette utilisation. Et depuis en fait janvier 2024, à chaque fois, SAG-AFTRA a annoncé des accords avec différentes boîtes spécialisées dans l'intelligence artificielle dans le domaine de la voix et de la vidéo, en disant voici, on a un accord avec eux. Ok. Et j'ai un peu regardé, et à chaque fois en fait j'ai regardé à chaque fois qu'ils font un accord, ils balancent à peu près le même mantra sur voici l'accord qu'on a avec ces boîtes là. Et en fait je vais pas tout énumérer, mais je vais juste donner les points principaux des mesures mises en place par les SAG-AFTRA pour protéger les comédiens de voix face aux avancées de l'intelligence artificielle. D'abord, c'est la notification préalable. Les comédiens doivent recevoir au moins 48 heures de préavis si leur voix va être utilisée par une réplique en IA.
Ouais, c'est court, mais ok.
C'est court, voilà. Ça leur permet de décider s'ils acceptent ou non l'utilisation de leur voix dans le cadre de l'IA.
C'est-à-dire qu'on doit les prévenir, mais c'est en ça. Mode s'ils disent rien, c'est un accord tacite ?
Là-dessus,
c'est pas très clair, mais effectivement.
En tout cas,
ouais.
Voilà.
Ok.
Même après la prestation, c'est-à-dire un comédien va dans un studio, enregistre une voix et s'en va. Après leur prestation, leur voix ne peut pas être utilisée par une IA sans leur accord explicite et une description précise de la manière dont leur réplique vocale sera employée.
C'est plutôt positif. Je trouve ça plutôt protecteur.
Les contrats prévoient aussi que les comédiens soient payés comme s'ils réalisaient le travail en personne, même si sa voix est exploitée par une intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça,
c'est déjà ça.
C'est par rapport au lignage.
Ce qu'on
appelle le lignage.
Le contenu, la quantité de travail fourni. Quoi.
Dans le doublage, en fait, on est payé ce qu'on appelle à la ligne, en tout cas en France, ce qui fait qu'en gros, tu as les textes, il est compté en ligne, pas en nombre de mots. Et en fait, quand tu as une ligne, tu es payé tant. Et en fait, plus tu fais de lignes, et plus tu es payé. Et on estime que si on prend ta voix, même si on n'a qu'un échantillon de ta voix, et que on fait générer avec ta voix 18 lignes, eh bien, il faut que c'est pas un forfait. Il faut que c'est pas un forfait où on te dit on prend ta voix, on te paye 800 balles et puis tu te débrouilles
quelque
pour
soit
toute
la
ta
quantité,
vie.
Ouais,
là
ouais,
non, ouais. On sait par rapport à ce qui est par rapport à ce qui est utilisé.
OK.
D'accord. Juste après, il y en avait plus beaucoup derrière et il y avait évidemment il y a des spécificités selon le secteur, la technologie et tout. Et en tout cas, le principe global, de toute façon, de SAG-AFTRA, c'était de dire qu'ils ne cherchent pas à bloquer la technologie, mais qu'ils veulent travailler avec les entreprises pour définir des règles et accords protecteurs. Le truc qui m'embête, en tout cas, que je n'ai pas vu, c'est qu'est-ce qui se passe pour les prestations existantes déjà, avant la signature des contrats. Parce que là, c'est pour tous les nouvelles utilisations.
Bah, disons,
mais pour tout ce qui existe.
Il y a eu une grève pendant un moment, peut-être qu'il y a eu aussi un nombre relativement limité de choses qui existaient avant cette décision.
Ah non, mais je veux dire, ok, par exemple,
non, je sais pas.
C'est pas ça, c'est que, je sais pas, il y a des films Disney qui ont été doublés par des gens.
Oui.
Il y a 30 ans.
D'accord.
Il y a 15 ans. Il y a
des gens qui
ne
sont peut-être même plus là pour
se
défendre. Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que là, on parle que de contrats, nouveaux contrats.
Ok.
D'accord. On parle pas de l'existant.
Et ouais, de ce qu'on fait. Avec
et c'est là où on est justement avec notamment le cas de François Cadol et de Tomb Raider.
Ouais,
c'est que
les enregistrements, ils ont 20-25 ans.
Quels sont les droits en fait là-dessus, il y a pas de législation en fait.
Et c'est ce qu'on disait la dernière fois quand on avait évoqué ça effectivement, et c'est pour ça que François Cadol est une des plus vocales dans ce mouvement qui se bat pour rappeler que la voix est à la fois une donnée biométrique protégée, par les, la législation française d'une certaine façon, mais que effectivement ça ne suffit pas, puisque bah, eux défendent le fait que c'est un travail artistique également, qui ne peut être remplacé par un algorithme, mais ils restent mobilisés effectivement pour obtenir un cadre légal clair, ce que tu disais en fait, qu'il n'existe pas de législation spécifique, même si il y a la logique de la donnée biométrique protégée. Ça a été d'ailleurs une des raisons, un des éléments mis en avant par Françoise Cadolet, son avocat, je crois d'ailleurs au moment de réagir, puisqu'elle avait son droit d'opposition, qui uh-huh. était normalement garanti par le RGPD. Son droit d'opposition à l'utilisation de ses données, de sa voix, et du coup, qui correspond à une donnée concrète. En tout cas, ça fait partie de leur discours, et de, d'ailleurs, sa réaction à Françoise Cadolet sur Instagram, oui. à cette réaction d'Aspire, qui retirait tout ça. Mais qu'effectivement, ça faisait partie du fait qu'on ne lui avait pas demandé son avis, alors que normalement, d'après les éléments qu'ils ont mis en avant, dont la RGPD, pour dire que ça lui donnait un droit d'opposition à cette utilisation qui, en tant que données biométriques.
Pour le coup, en fait, qui rejoint, on va dire, les termes des contrats voulant être mis en, enfin, étant mis en place.
Les éléments, en tout cas, qu'ils veulent intégrer voilà. dans les contrats comme éléments constitutifs, finalement.
Voilà. Pour les nouveaux contrats.
À défendre
contrats,
et à mettre
en place. Ça rejoint,
ouais.
Ouais, effectivement.
Ouais, c'est un petit peu, finalement, tous les éléments sur lesquels ils peuvent se baser et sur lesquels ils peuvent appuyer, finalement, parce que c'est, comme elle le dit, tu as la voix, tu as ton interprétation, ton ton, etc., tout le timbre, etc. Ça fait partie de toi, et en même temps derrière c'est une interprétation artistique, c'est une vraie performance en fait, tout simplement. C'était ça qui était mis en avant dans sa défense.
Oui. Est-ce que avant l'émission tu m'as parlé d'un collectif?
Alors oui, en fait tu l'as évoqué, c'est Les Voix.
Oui.
Les Voix, donc, qui a relativement récemment parlé de...
Donc quand on dit Les Voix, le Touche pas à ma VF, c'est ça?
Alors c'est un peu plus, je crois que c'est un peu plus global que ça, mais d'accord. ça fait partie de, enfin c'est les mêmes, je crois que c'est le même mouvement globalement. Okay. Les Voix, c'est l'assaut de défense des voix des acteurs de doublage français.
D'accord, ok.
Voilà. Donc je pense que le hashtag touche pas à ma VF,
touche pas à ma VF est un, c'est le nom du mouvement.
Pense, ouais. Et du coup, donc ils ont fait une réaction le 8 septembre sur les clauses IA dans les jeux vidéo. Des précisions sur les clauses IA dans le secteur du jeu vidéo. L'été dernier, face à de nombreuses sollicitations, il y avait eu effectivement une proposition de la part de Microsoft et une évolution en fait des contrats qu'ils proposaient. Alors spécifiquement, ils citent Microsoft. Et à l'époque, ils avaient dit nous ne déconseillons pas aux artistes de signer ce type de contrat. Et depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Les syndicats d'artistes interprètes et l'association des voix donc ont élaboré à l'époque une clause commune en mars 2025 visant à exclure explicitement toute utilisation de leurs prestations pour l'entraînement ou l'apprentissage des systèmes d'IA, la génération de répliques numériques et la création de voix synthétiques qu'elles imitent ou non la voix originale. Et donc voilà, et en fait c'est pour ça que par rapport à la clause imposée par Microsoft, telle qu'il le cite, ça ne colle plus avec ça. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, ils déconseillent vivement aux artistes interprètes de signer cette clause dans l'état actuel, puisque la rédaction de la clause en elle-même n'exclut pas explicitement l'usage d'enregistrement à des fins d'entraînement et d'apprentissage automatique, et elle n'empêche pas la création de voix synthétique.
Oui, la voix synthétique, effectivement, ça, on peut rien faire. Mmh. On se souvient notamment l'affaire avec Daniel Beretta.
Oui.
C'était
pour un trailer.
Pour un trailer, en fait, Daniel Beretta, qui est la voix historique de Sylvester Stallone, qui est mort l'année dernière. Ouais. Et en fait, sur un des films que Sylvester Stallone avait donné l'accord à une société d'IA de faire des tests. Mm-hmm. Pour réutiliser la voix
décédé.
Voilà, sauf que c'était pas plus que des tests, vu que la voix est apparue dans un trailer.
Alors, est-ce que c'était officiellement public? Est-ce que c'est un truc qui est sorti finalement d'un cadre qui devait pas l'être? Bref, ça semblait quand même un ballon sonde en mode regardez ce que ça donne, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Bon, tout le monde a chié sur le résultat.
Sauf sa fille Aurore Berger.
Alors, elle a dit le résultat ne nous convient pas.
Oui.
Elle a dit que le résultat leur convenait pas, elle aussi.
Mais elle a dit quand elle a vu que les gens gueulaient.
Oui, bon. En tout cas, on n'a pas d'enregistrement ou de texte qui dit « Ok, c'est bon, je suis d'accord, vas-y, utilise ma voix de mon père. »
C'est vrai.
Bon, mais
après, pour le coup, il y a une grande bataille entre...
Qui est encore en cours, oui.
Qui est une grande bataille, et puis déjà une bataille de mots entre justement Aurore Berger et les ayants droit de et
la le famille principe de test ou
sur
pas,
principe de d'avoir le droit enfin de faire des tests ou pas sachant que le père avait que Daniel Beretta avait été extrêmement vocal sur le fait de n'utiliser jamais ma voix pour sur Delire,
ce qui est déjà un petit peu plus compliqué à défendre effectivement. Sur le fait d'avoir autorisé le fait
il a été très très vocal sur le fait d'en foutez-moi la paix, ma voix c'est ma voix, je veux pas un truc d'outre-tombe où on l'utilise des choses que j'ai pas encore dit, que j'ai pas dit de mon vivant.
Mais du coup les voix sont effectivement, comme tu le dis, comme tu le rappelles, un truc global.
Sa fille s'en fout.
Mais du coup les voix ça concerne effectivement le cinéma, les séries,
la publicité.
Dont les publicités.
La publicité, on voit de plus en plus notamment de publicités avec des voix en IA, notamment des publicités avec des célébrités.
Hein, décédés par exemple souvent aussi.
Des célébrités qui sont pas françaises tout simplement.
D'accord.
Et en fait on invente une voix. Des fois en fait on dit ben c'est simple hein. Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos où tu vois quelqu'un en fait qui est en train de parler dans une langue puis dans une autre puis dans une autre puis dans une autre et s'étouffer en fait via de l'IA en fait. Et en fait tu peux utiliser exactement cette technologie en disant ben par exemple tu prends Jürgen Klopp, un entraîneur retraité désormais, on va dire. Enfin,
plus ou moins, oui.
Voilà, qui fait une pub, et en fait, sa voix, tu dis, tiens, elle est très, 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 très bizarre. Et oui, c'est normal, en fait, parce qu'ils ont pris sa voix anglaise.
Oui, la façon dont il a de parler, voilà.
Et en fait, ils ont demandé à un logiciel de dire, vas-y, ça sonne quoi en français, quoi. En lui faisant bouger les lèvres pour que ça sonne en français.
Oui, c'est ça. L'IA est capable en fait de faire du doublage, la synchronisation labiale pour être précis.
On est sur un Uncanny Valley par contre pour l'instant où ça fait bizarre.
Oui, t'as un peu l'impression qu'il se passe un truc pas bien et ça fait un peu peur. Mais effectivement, dans le secteur du jeu vidéo, comme on le rappelle, donc c'est un peu le sujet de l'émission malgré tout. Il n'y a toujours pas de convention collective de contrat type négocié collectivement, donc spécifiquement par rapport au doublage. Par des doublages simplement des personnages ou des situations. Et du coup, les voix rappellent que de faire très attention effectivement aux contrats, leurs annexes et tout ce que ça peut impliquer sur ces utilisations potentielles, directes ou dans l'avenir, comme tu le disais, ou dans les 20, 30, 30 années à venir, etc.
C'est pour ça, en tout cas, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est justement, il y a les deux positions qui existent. La position, enfin, en tout cas, majoritaire américaine via le syndicat de la voix américain, en fait, qui va dire, on n'est pas contre l'IA, par contre,
tout le monde soit rémunéré correctement, que tout soit bien enregistré et tout.
Et ceux qui disent que, en fait, la technologie est tellement puissante va tellement tout remplacer qu'en gros, ça sert à rien de mettre des contrats. Globalement, si on n'y met pas un terme, c'est la mort du métier qui arrive. Donc, c'est intéressant. En gros, on verra comment ça roule, mais
disons qu'on attend effectivement, comme le réclament les voix, un vrai cadre juridique qui peut en plus se baser sur, comme l'évoquait l'avocat de Françoise Cadol, sur le RGPD déjà, sur certains éléments,
voire la donnée biométrique sur les trous, sur les trous actuels de la.
Parce que effectivement, la donnée biométrique qui est la voix peut déjà être un élément. Peut déjà être un point de départ en fait sur la discussion.
Oui, c'est un élément, mais après voilà, comme c'est pas utilisé pour l'identification, c'est un peu compliqué aussi. Donc
mais complètement.
C'est pour ça que
c'est plein de petites choses qui sont en cours actuellement, enfin qui sont des vrais enjeux pour toute une partie effectivement du métier de doublage, que ce soit de jeux vidéo ou pas. La question est beaucoup plus large que ça, mais il s'est avéré que cette histoire s'est passée effectivement dans le cadre du jeu vidéo. Oui. On attend encore effectivement d'autres exemples, je dirais, dans d'autres cadres hors du jeu vidéo. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on en entend parler.
En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que, enfin, pour conclure là-dessus et pour passer au sujet suivant, pour l'instant, il y a quand même une forte mobilisation du public, un peu comme si quand on parlait des NFT ou d'autres choses, qui dit que clairement, pour l'instant, pas l'IA dans une manière de façon générale, mais en tout cas sur les voix, il y a un truc où le public n'est pas prêt encore à l'accepter vu qu'il y a encore un grand tollé dessus.
Oui, en tout cas, les gens ont prévenu Françoise Cazal en lui disant attention, il se passe ça. Il y a peut-être certains qui se disaient est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est toi qui as validé?
Oui,
je pense qu'il y a peut-être un petit peu de l'appel de ça.
Oui, puis il y a un soutien du public forcer, aussi.
Voilà, parce vers la défense.
Il y a un soutien du public et même un soutien médiatique en fait. Parce que si tu t'en fous et que tu dis qu'on remplace ça par d'IA, on s'en tape, je pense que les gens.
Il n'y a pas les articles qu'on a eu.
Les articles n'ont pas non plus.
Il y a eu des articles dans le Parisien et des articles sur
Il n'y a pas que, entre guillemets, le côté 2-3 irréductibles qui adorent les VF, tu vois.
Oui, j'en entends.
Donc c'est pour ça que je trouve ça. C'est pour ça que pour l'instant, c'est ce que je retiens principalement de cette info-là.
Ouais. C'est un bon point de départ, on verra où ça va.
Et si on parlait de Silksong?
On en a déjà parlé un petit peu.
Silksong est un jeu vidéo. Silksong, c'est
un phénomène.
C'est plus qu'un jeu vidéo, c'est un phénomène. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été annoncé il y a...
Officiellement 2019, je crois.
Ouais, il y a 6 ans.
Déjà. Alors en fait, ça vient officiellement du Kickstarter du jeu d'origine Hollow Knight, qui proposait dans un des paliers du Kickstarter, donc du financement participatif, de proposer un deuxième personnage jouable.
Oui.
Qui devait être proposé dans un DLC, donc un contenu achetable en plus, et qui en fait est devenu la suite du jeu. Mmh. Donc ça faisait effectivement un petit moment que c'était dans les tuyaux. De le faire, effectivement.
Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que donc, le jeu Hollow Knight est sorti en 2017, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Il a cartonné et a engendré l'attente de cette suite, de cette DLC. Il a changé dans le temps, mais voilà. Qui s'appelle donc Silksong.
En fait, officiellement, c'est Hollow Knight 2. Silksong. Ouais,
voilà.
Donc, c'est vraiment la suite, un élément supplémentaire. Voilà,
et au final, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tant, maintenant que le jeu est sorti, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le jeu en soi, parce que ce soit toi ou moi, on n'y a pas joué, et a priori, on n'y jouera pas, parce que.
Notre genre de jeu, je pense, ni à toi, ni à moi.
Ah, moi, c'est parce que je suis pas assez bon. Et.
Ah, mais moi, c'est pareil, sauf que je le dirai pas.
Mais plus sérieusement, en fait, ce qui a été intéressant à suivre pendant toutes ces années, c'est l'attente autour de ce jeu qui était grandissante.
Ouais.
Et une attente, on va dire, assez inhabituelle pour un jeu de cette taille, pour un jeu de ce genre.
Aussi.
Et pour un jeu de ce prix, et ça, on en parlera une autre fois. Mais.
Ça peut être intéressant aussi.
Voilà.
Mais effectivement, oui.
Et donc, c'est pour ça que ça a occasionné pas mal d'éditoriaux différents sur Silksong.
Déjà, au fur et à mesure des années.
Oui,
le fait qu'effectivement, cette attente était complètement disproportionnée, comme tu disais, par rapport au projet, mais. On pourrait revenir dessus. Mais voilà, mais elle a été. C'est très intéressant, même le phénomène en lui-même. Ça pourrait être très intéressant
d'analyser
le phénomène de ce projet-là.
Des gens qui ont essayé d'expliquer pourquoi Hollow Knight avait aussi bien marché et pourquoi une suite était si attendue. Et d'essayer d'analyser ça. Pour en sortir soit des éléments sur comment analyser l'attente, soit des éléments plus on va dire commerciaux pour dire comment en fait tu peux reproduire ça, tu vois.
Tout à fait.
Clairement.
Bien sûr.
Là en fait ce dont on voulait parler en fait c'est un article d'un journaliste de Gamekult qui en fait a profité de la sortie de Hollow Knight Silksong pour évoquer sa vision de ce qu'on appelle la hype, c'est-à-dire il le définit en fait comme un phénomène collectif, comme un mélange d'attente fébrile et d'excitation artificielle, selon lui, nourri par la communication officielle d'un côté et des fantasmes des joueurs en ligne où les forums, YouTube et réseaux sociaux agissent comme amplificateurs de chaque rumeur et trailer. En gros, c'est un peu comme la rumeur, comme l'excitation, c'est-à-dire
c'est ça, la traînée de poudre, le téléphone arabe, quel que soit le nom que tu peux donner à ça, le fait qu'il y ait des gens qui parlent d'un truc et que ça réagit, ça amplifie, ça relance et ça recommence et ça attire de nouvelles personnes dans le cirque qui entraîne.
Avant qu'on parle de la hype dans le domaine du jeu vidéo en particulier, parce que c'est la manière dont il est abordé dans cet article-là et dont on va parler, c'est quand la première fois que tu as entendu parler de hype de manière générale? Est-ce que c'était lié au domaine du jeu vidéo ou pour autre chose?
En vrai, oui, c'était lié au jeu vidéo, je pense.
Ok.
Mais te donner une date, te dire un truc, peut-être No Man's Sky.
Ok.
C'est peut-être le premier exemple, 2016, il est sorti, si je dis pas de bêtises.
Donc pareil, un jeu phénomène, en fait, dont la communication a été montée très, 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 très fortement par Sony, qui était donc l'éditeur de la console.
Oui, pas que, il a accompagné, mais bon, c'était le créateur, mais oui.
Oui, le créateur et Sony, c'est-à-dire que bon, les deux se sont bien...
ils sont bien relayés.
Ils se sont bien relayés.
Pour remettre des couches.
Voilà.
Et te promettre un truc, en fait... Qui ne correspondait pas finalement au produit final.
C'est ça.
Dans le cas de No Man's Sky, à sa sortie en 2016.
C'est ça. Le jeu est devenu peut-être. D'ailleurs, il est devenu autre chose que sa promesse, mais il est devenu.
Il est devenu beaucoup. Enfin, ouais, il est devenu quelque chose de très intéressant. C'est un phénomène en soi très intéressant, qui est devenu No Man's Sky aujourd'hui.
Non, mais il a fallu que 10 ans pour que ça devienne Star Citizen.
Mais comment est-ce qu'ils ont survécu autant de temps à rajouter des contenus gratuitement pour que le jeu devienne ce qu'il était promis?
C'est parce qu'à la base, en fait, avec la pub, ils en ont vendu assez, même si les gens n'étaient pas contents pour que...
Ils en ont vendu pas mal, mais assez. Enfin, c'est quand même intéressant comme phénomène.
Après, c'est une petite équipe. Mais ok, donc là, c'est dans le domaine du jeu vidéo.
Oui, je pense, oui.
Moi, les deux domaines où j'ai entendu parler de hype avant qu'on m'en parle en jeu vidéo, c'était en premier, c'était en musique.
Ok.
Où j'avais lu quelque part « Don't believe the hype ».
Ok.
Et à l'époque, il me semble que c'était pour parler de Oasis.
Oh.
Et donc, c'était assez intéressant.
Oui.
Oasis, où il y a toujours eu, en tout cas dans les années 90, ce débat entre est-ce que c'est un groupe de rock révolutionnaire qui défonce tout ou est-ce que c'est juste des gens qui ont pompé les Beatles avec un son légèrement plus moderne.
Et est-ce qu'ils sont meilleurs que Blur ou pas?
Oui, voilà. Non, c'est ça.
Et est-ce que Radiohead n'est pas venu expliquer à tout le monde qui était le meilleur? Bon, bref, c'est d'autres discussions.
Oui, voici un tabouret, voici une corde, bonjour, ceci est Radiohead.
Voilà.
Mais... voilà.
Et quand tu le vois, effectivement, avec le retour d'Oasis aujourd'hui, que finalement c'est un phénomène qui n'est pas complètement mort.
Avec des gens qui se battent et tout.
Et qui tombent des stades et qui meurent. Hein,
pour des places à 9000 balles.
Voilà.
Donc en fait, c'était ça. En gros, pour moi, j'attribuais ça à ce qui est un mélange de popularité et d'actualité.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est populaire, mais maintenant. Enfin, c'est ça qui est important.
C'est le côté trend, le côté actualité, quoi.
Pareil, la deuxième fois, après, c'est dans le sport, de manière générale, et en plus particulier dans le foot.
Ok.
Où on va. Quand le foot, c'est très individualisé, qu'on est parti sur des joueurs, et la hype du moment, c'est tel joueur, tu vois.
Ouais. Ok.
Et c'est un peu plus tard que j'ai entendu des analyses comme ça
dans le
jeu vidéo.
D'accord.
Effectivement, après, voilà, c'est peut-être parce que j'étais moins concentré sur ces domaines-là, du côté médiatique, parce que je regardais moins de médias différents du jeu vidéo.
Autour du jeu, ouais.
Voilà.
Alors, juste pour. Pardon, vas-y.
Je voulais juste dire, si on reprend l'article.
Moi, je vais reprendre la définition.
Je t'en prie.
Parce que du coup, effectivement, tu parlais d'actualité et d'éléments du moment.
Ouais.
Le côté vraiment, c'est le truc à suivre maintenant, là, comme ça, c'est la trend, je sais pas comment on pourrait dire, la tendance.
Oui, la tendance, en fait. Bien sûr.
Et j'ai vu une autre définition qui est un peu plus, qui me rapproche plus de ce que finalement veut dire l'article. La hype, ce serait rendre quelque chose plus excitant ou plus important qu'il ne l'est réellement.
D'accord, en termes de
quel que soit le sujet.
Oui, voilà.
Et du coup, ça rentre déjà plus dans ce qu'on peut effectivement.
En tout cas, ce qui est, on va dire, dénoncé par cet article. Voilà.
Oui.
Parce que, en gros, pour l'article, en fait, part de 5 principes. 1, 2, 3, 4. 4 principes, pardon, excuse-moi, pas 5. Je vais les énoncer rapidement, et puis comme ça, on pourra en parler. Pour lui, son problème, c'est que la hype n'est pas spontanée.
Ok.
La hype crée une temporalité toxique. C'est-à-dire qu'une des attentes en termes de temps, de sortie de jeux qui sont préjudiciables pour les développeurs, mm-hmm. par exemple. La hype se condense en un chiffre métacritique. On expliquera ce qu'est métacritique un peu plus tard. Et enfin, la hype est cyclique et cynique. C'est-à-dire qu'une fois que, le jeu est sorti et qu'il n'y a plus la popularité du moment, on va trouver un autre objet pour se monter le bourrichon dessus.
Ce que je voudrais dire, en fait, la hype ne peut exister que pour un produit qui n'est pas encore existant dans les mains des joueurs.
C'est ça.
Ok, ça fait déjà un élément important.
Ça, et le fait qu'une fois qu'il y en a une qui meurt, on a besoin qu'il faut de le remplacer. Voilà. Et toi, je sais que quand on avait préparé l'émission, tu avais lu cet article et tu avais dit « Je comprends ce que ça raconte, mais je ne suis pas d'accord avec ce que ça raconte. »
Comme je disais, en fait, je suis assez d'accord avec certaines des bases qui sont posées. Qu'est-ce que la hype, etc. Ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, sur que c'est un phénomène autour de entretenu par les médias, entretenu par les équipes, entretenu par les joueurs et par les réseaux, finalement, qui en parlent entre eux. Je suis complètement d'accord, et notamment dans le cas de Silksong, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Ils se sont montés entre eux. Il y a eu vraiment un côté communautaire de ça, des blagues, du jeu. Faire partie finalement d'une communauté de cette ambiance là, de ce mouvement là, jouer avec ça, en fait.
C'est pour ça que pour moi je suis pas d'accord avec le fait que la hype n'est pas spontanée, notamment dans le cas de Silksong. Je suis pas d'accord.
Alors elle a mis du temps à monter, parce que même le fait que Hollow Knight se soit vendu à 15 millions d'exemplaires, ça fait déjà effectivement un certain nombre de clients qui seraient éventuellement intéressés par une suite. Mais 15 millions d'exemplaires, c'est en pratiquement 8 ans de vente, 7-8 ans de vente, puisque la première année, ils en avaient vendu 500 000. Donc c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme pour une équipe de 3 personnes. 2 personnes à l'origine, une troisième personne recrutée pendant le développement, et
à la musique,
et la musique, effectivement, le compositeur, qui est une quatrième personne, mais qui a beaucoup d'importance sur finalement l'aura du jeu et le ressenti du jeu. Donc oui, ça venait pas de nulle part. C'est-à-dire que ça venait déjà finalement d'un projet qui avait déjà convaincu.
Ah non, mais en fait, pour moi, le spontané, contrairement à fabriqué par des éditeurs, fabriqué par
des départements marketing,
par des
qui travaillent
marketing,
dessus,
par voilà. Pour Silksong, je trouve qu'on n'est pas dans ce cas-là.
Non, je suis assez d'accord. Et effectivement, j'avais vu une expression qui disait que la hype, en tout cas l'attente créée et la communauté créée autour de l'attente de ça. Il y avait des comptes Blue Sky ou Twitter qui recensaient tous les jours, qui postaient un truc en disant aujourd'hui pas de nouvelles de Silksong. Tous les jours, enfin, on en était là. Et tu as vraiment tout ce travail-là, en fait, qui a été fait par la communauté. Et il y avait l'expression, en fait, de gens qui disaient n'importe quel département marketing de n'importe quel jeu serait capable de se couper un bras pour avoir le même niveau d'attente et le même niveau de communication. Sauf que là, en fait, les gens de Team Cherry, donc le studio qui a développé Hollow Knight et Silksong, ils n'ont rien provoqué, enfin, ils n'ont rien payé pour que ça arrive. Ils ont fait leur jeu et ils ont un petit peu joué avec ça aussi. Ils ont fait un petit peu de communication quand même, ils ont un petit peu alimenté ça.
Extrêmement peu, c'est-à-dire qu'ils ont...
Ils ont quand même appuyé de temps en temps pour dire « Regardez, on va faire un truc, on va faire un truc ». La moindre petite phrase qui ressortait de leur côté était suranalysée, etc., parce que le mouvement était déjà lancé.
Oui,
mais c'est dans le sens où je ne les mets pas comme responsables, mais je pense qu'ils ont quand même bien profité de ça et joué avec. J'ai rien à leur reprocher, je ne reproche pas d'avoir fait.
Voilà, je mets une différence entre profiter de la vague existante et
la créer à partir de rien, en achetant des followers, en achetant des gens pour provoquer, pour parler de ton jeu en ligne. Oui, je suis d'accord.
Que penses-tu de la temporalité toxique dont il parle, c'est-à-dire le fait qu'il y a une date invisible de sortie qui se crée dans l'esprit collectif et que chaque silence du développeur est vécu comme une trahison, et ça a été le cas pour Cyberpunk 2077 avant lui, pour d'autres auparavant. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je pense que c'est pas le sujet, en fait. Parce que dans le cas de Cyberpunk, il a été repoussé un petit peu. Il a été repoussé 2 fois, je crois, d'un an à peu près, enfin en tout, de mémoire. Il a effectivement eu une grosse hype aussi dans son genre. Mais dans le cas de Silksong, finalement, ça faisait partie du jeu, en fait. J'ai l'impression que ça faisait partie de ce phénomène qui s'auto-alimentait, en fait. Chaque report, chaque silence, comme tu disais, aux différents showcases, aux différentes expos, etc., c'était une raison de plus de dire, cette fois-ci, on n'a pas eu de nouvelles de Silksong. Encore une fois, on n'a pas eu de nouvelles. Ça faisait partie du truc. Je pense que les gens n'étaient pas... le jeu serait sorti il y a 2 ans, ou le jeu sortirait dans 2 ans. Ça aurait pas changé grand chose en fait au mouvement, au phénomène, et que les gens ils auraient survécu. Donc j'ai pas l'impression que ça aurait changé grand chose en vrai.
C'est pas tant, alors moi c'est pas comme ça que je l'entends en tout cas, mm-hmm. Non, je le lis dans l'article. Moi c'est plus la hype ou en tout cas l'attente va mettre une pression supplémentaire sur une équipe qui n'en a pas forcément besoin pour faire un bon jeu.
C'est pour ça que je dis que ça n'aurait pas changé grand-chose, je pense, sur l'équipe.
Pour Silksong, oui.
Oui.
Mais là, je parle de la hype en général, pas que de Silksong.
Alors.
Typiquement, par exemple, on sait que ça a posé problème pour Cyberpunk 2077.
Ouais, parce qu'il y avait des attentes et que effectivement, ils l'ont sorti trop tôt.
Et que
c'était un des problèmes de Cyberpunk, c'est qu'il est sorti trop tôt.
Parce qu'en fait, il y avait une attente telle. Mais aussi par le truchement de l'équipe marketing qui avait promis des choses, etc.
Il y a ce que l'équipe marketing avait dit, il y a ce que les gens en ont retenu.
Voilà,
qu'il
était devenu impossible, même pour l'éditeur, même par rapport à la pression aussi de leurs actionnaires.
Hein. Leur précédent jeu était 2015, voilà, donc il y avait quelques années déjà.
Et de dire, on va le repousser de X temps pour qu'il soit propre. C'était impossible. Que ça soit d'un point de vue attente des joueurs, mais aussi d'un point de vue attente des actionnaires.
Je pense que l'attente des actionnaires était un élément beaucoup plus important.
Je pense aussi.
Je pense pas que l'attente des joueurs était quelque chose de
je peux être d'accord avec ça.
Je sais pas si le jeu était sorti un an plus tard en bon état, est-ce que les gens auraient gueulé, est-ce que les gens l'auraient pas acheté? Parce qu'au final, c'était quoi?
Tout le monde l'a acheté quand même.
Mais il y a eu 7 millions de précommandes.
Non mais
les gens l'avaient déjà acheté avant qu'ils sortent, sans savoir dans quel état il était sorti.
Non mais c'est le principe de la hype.
Oui, d'accord. Mais justement, est-ce qu'il y aurait eu moins de hype s'il était sorti un an plus tard?
Pour moi, c'est en fait une fois de plus.
Parce que finalement, c'est ça.
Pour moi, la hype n'est pas problématique, mais ça c'est autre chose.
Mais par contre, il y avait effectivement un vrai problème du côté de Cyberpunk, du côté de CD Projekt. Ils avaient besoin de thunes.
Oui,
il fallait que ça sorte.
Pour moi, en fait, l'attente, le fait qu'il y ait beaucoup d'attentes, genre entre guillemets démesurées sur un truc. Ne me dérange pas. À partir du moment, moi, ce qui me dérange, c'est qu'est-ce que les ayants droit, qu'est-ce que les faiseurs, qu'est-ce que les producteurs en font. C'est ça qui est différent.
C'est vrai que c'est un élément du coup qui est complètement absent de Silksong. Les mecs, en fait, étaient déjà complètement indépendants.
Absent de l'article surtout.
Aussi.
Parce qu'en fait, ils jugent la hype comme un tout nébuleux.
C'est vrai.
Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre oui, l'attente. Tu peux rien faire contre une attente. Les gens attendent les gens attendent les JO.
Oui. Ça va arriver.
Les CEO font plein de pubs sur machin, mais les gens attendent les JO.
Ils vont pas changer la date. Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Comment le CEO va surfer dessus pour provoquer des choses qui sont pas forcément géniales.
Et puis, comme on dit, je disais un petit peu d'une certaine façon, n'importe quel département marketing, n'importe quel studio cherche la hype. Mm-hmm. Ils attendent que ça. Provoquer de l'attente, donner envie aux gens. C'est exactement ce qu'ils font avec toute leur communication, les trailers, la présence aux différents expos, comme on le disait, le Summer Game Fest, la Gamescom, etc. N'importe quel de ces éléments est là, de ces événements est là pour faire monter l'envie et du coup te garantir un certain succès finalement. Qu'on ait entendu parler de toi, qu'on ait eu envie de toi et que du coup le moment où je sors, on ait envie de l'acheter. C'est le principe, en fait. Ça fait complètement partie du jeu et c'est... comment dire? Je vois pas à quel moment c'est devenu quelque chose de toxique. J'ai du mal avec ça. Mmh. J'ai du mal avec ça parce que c'est complètement l'objectif, en fait. Effectivement, les médias jouent avec parce que eux aussi ont intérêt à jouer avec ça parce que ça provoque des clics, ça provoque des vues. Ils vont être récompensés en donnant ce que les gens attendent comme attention. Enfin, ils attendent des vues. Donc, pareil pour les influenceurs, pareil pour les posts sur les réseaux. On est tous dans cette logique-là et l'industrie essaie de le provoquer autant qu'elle peut parce que c'est ça qui peut leur donner le maximum de visibilité, du coup le maximum de chances de très bien réussir. Ouais. Je suis pas finalement c'est du marketing comme un autre, mais je sais pas à quel point c'est quelque chose de problématique, mais Je sais pas comment dire. Disons que dans le cas de Six Song, c'est un peu particulier. J'avais trouvé effectivement dans un autre article qui analysait plutôt le jeu en lui-même et sa façon dont il a été développé. Il disait que l'industrie devrait plutôt s'intéresser à trouver plutôt que de chercher le prochain Six Song en termes de réussite, en termes de hype, etc. Il devrait plutôt chercher la prochaine Team Cherry, la prochaine équipe capable de créer quelque chose de différent, parce que ils ont sorti un Metroidvania, donc un genre de jeu qui était déjà saturé en 2017. Il y en a qui sortent tous les jours, voire toutes les, enfin il y en a plusieurs qui sortent toutes les semaines. Ce genre de jeu, celui-là est sorti du lot. Donc, c'était pas une question de.
En gros, ce que j'entends, c'est ne soyez pas Geoff Keighley qui attend la nouvelle merveille de l'indé. Mm-hmm. Soyez plutôt comme Bettina en allant voir les équipes créatives.
Ben ouais, parce que c'est ça qui est le plus important en fait. Ouais. C'est finalement de leur donner les moyens de réussir, de leur donner une chance d'exister et du coup de réussir. Parce que finalement, c'est ça le projet. C'est ça réellement le. Il y a effectivement, on l'a pas souvent dit ici, mais on parle un petit peu du nombre de jeux qui sortent. Il y en a un nombre effectivement beaucoup trop important pour que tous réussissent. De toute façon, et même en termes simplement de jeux qui sont de très bonne qualité, parce que tu peux en éliminer un bon paquet qui sont pas forcément des jeux très intéressants de base, même techniquement, ce genre de choses. Mais simplement, si tu t'intéresses à tous ces projets-là, il y en a déjà beaucoup, beaucoup trop qui sortent pour avoir simplement le temps de t'y intéresser. Donc, c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on entend les journalistes en général et les influenceurs te dire qu'il y a trop de jeux qui sortent. En fait, parce qu'ils n'ont pas le temps, eux, d'être sur tous les fronts en même temps.
En fait,
donc ils ont peur en fait de rater le truc.
C'est pas trop de jeux qui sortent, c'est trop de bons jeux qui sortent.
C'est ça. Et du coup, ils ont peur de rater, de pas être là sur le truc qui va complètement péter et t'apporter énormément de visibilité, énormément de vues. Parce que c'est ça aussi qu'ils cherchent finalement, que ce soit les médias comme les influenceurs.
Moi, je me pose la question, pourquoi on s'embête à faire cette émission alors que je pourrais jouer à des trucs auxquels j'ai pas le temps de jouer d'abord.
En vrai, c'est une vraie question. Mais sérieusement,
il y en a beaucoup trop. Ouais.
Mais c'est ça, il y en a beaucoup trop. Mais en vrai, ça veut dire qu'il y a aussi plus il y en a, plus il y a de chances de tomber sur un truc qui aura été financé par un coup de chance, financé par le chômage de gens qui se sont barrés de leur boulot, le génie créatif de quelqu'un qui sort un petit peu de nulle part, te proposer quelque chose d'inattendu, un balatro, un jeu comme ça, inattendu, qui sort de nulle part, un projet, un side project de quelqu'un qui l'a fait tout seul, un petit peu dans son coin, un Vampire Survivor, ce genre de projet. Et c'est ce genre d'initiative finalement qu'il faut laisser vivre.
Among Us, c'est bien la même. Hein.
Ouais, Among Us, c'est aussi ça. Il faut laisser vivre et qu'il faut laisser la possibilité d'exister dans un espace qui de toute façon est saturé par beaucoup, beaucoup de bons jeux tout court. À partir de là, si tu nourris ce phénomène, tu as tu augmentes les chances qu'une réussite de ce niveau-là, complètement hors norme, extraordinaire, apparaissent.
Je pense qu'on ne va pas avoir le temps de parler du dernier point qui est la hype qui se concentre sur le chiffre Metacritic, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, on n'a pas assez de temps.
Ça serait intéressant une émission sur Metacritic.
Oui, ça clairement, oui. Sur Metacritic, qui est un système.
Et les notes en général.
Qui est un système de notation qui est d'ailleurs souvent utilisé comme indicateur de réussite par les financeurs.
Oui, il y a eu des bonus déjà accordés en fonction d'une note métacritique. Je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs, parce que c'était quand même relativement vieux maintenant cette histoire, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Je ne serais pas étonné.
Surtout que maintenant, il y a OpenCritic qui est un autre modèle du même genre.
Voilà.
Ce ne sont pas les seuls.
Moi, en fait, je conclurai par rapport à tout ce qui est hype, attente et tout. Est-ce que c'est. En tout cas, l'auteur en tout cas, Gamecult jugeait que c'était pas une bonne chose et que c'était une mauvaise chose et que je trouvais en fait que je comprenais son désarroi et sa fatigue en tant que professionnel du jeu vidéo qui doit suivre l'actualité du jeu vidéo et dont le boulot est de trier en permanence entre ce qui est intéressant et entre ce qui est intéressant et ce qui l'est moins. Et que en fait d'avoir entre guillemets c'est ça quand il va chercher des informations être entre guillemets pollué par une énorme somme d'informations sur un jeu peut effectivement nuire et à son nuire en fait à l'efficacité de son travail et donc le fatiguer, et ça je le comprends. Néanmoins,
et j'irais même au-delà, ça peut faire partie de son boulot de participer à ça aussi, parce que c'est des articles qui vont être efficaces et du coup rapporter de la vue,
notamment chez IGN effectivement, ou chez IGN, où ça peut être carrément être enfin ils peuvent être payés spécifiquement pour ça.
Oui, bien sûr. Mais donc voilà, c'est pas que simplement ton boulot en dehors de ça, que t'as pas de...
Voilà.
Les infos sont saturées, c'est que ça peut être aussi ton boulot d'aller chercher ces infos-là.
Et du coup, je comprends le côté fatigue. Moi, je serais d'accord avec le côté la hype, en gros, la hype englobe tout, et on ne peut pas y échapper, et c'est horrible et tout ça. Si la hype ne... la hype, en fait, ne concernait que des jeux qui n'en valent pas la peine. Je serais d'accord avec ça. C'est-à-dire que si à chaque fois c'était des jeux
décevants,
qui sont systématiquement décevants, tu vois, que des gens soient déçus, c'est une chose.
Mais que le jeu en lui-même ne plaise à personne.
Et que à chaque fois des jeux vont décevoir, c'est normal. Tu vois, c'est normal, c'est pas un problème. Si les jeux étaient systématiquement décevants, les jeux hype étaient systématiquement décevants, je dirais effectivement, il y a un problème dans la manière dont on suit et dont on supporte et dont on
communique
autour des jeux vidéo. Or, ici, ce n'est pas le cas. Il y a plus des histoires de circonstances qui font que il y a des jeux qui vont avoir la hype derrière eux, et des jeux qui ne vont pas l'avoir. Des équipes marketing qui sont plus malignes que d'autres, des jeux, des temporalités, etc. Mais pour moi, la hype va pas. À partir du moment où la hype ne décide pas si un jeu est bon ou pas bon. J'ai aucun problème avec la hype. Tu vois
alors,
ce que je veux dire ?
Je comprends ce que tu veux dire, même si je rappelle ce que je disais. Pour moi, c'est la définition que j'avais trouvée, que je suis assez d'accord. Enfin, si je me base dessus, rendre quelque chose plus excitant ou plus important qu'il ne l'est réellement. À partir de là, le fait. Tu peux pas être overhypé, tu peux pas être trop hypé. Parce que la nature même de la hype, selon cette définition, c'est d'être une exagération. Donc à partir de là, en fait.
C'est pour ça que j'ai pas de problème avec ça.
Tu as forcément plus que ce qu'on va réellement te donner en échange.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas de problème avec ça. Tu peux exagérer un truc qui est déjà bien.
Oui, tu
peux. C'est
sûr.
Pas un problème, tu vois.
Oui, complètement. Je suis assez d'accord.
C'est pour ça que ça me pose pas de problème. Je comprends qu'en tant que tueur, ce soit exténuant. De certaines manières, je comprends.
T'as pas envie d'être celui qui a pas parlé du truc ou qui a pas dit regardez, c'est le prochain jeu de l'année.
Oui, parce que c'est
parce que tu passeras pour un con, parce que tout le reste du monde l'aura vu.
Parce que c'est ton métier. Mais au final, en fait.
Au final, oui. Il y a la place pour tout le monde et il y a place pour tous les discours.
Et puis la hype, en fait, ne définit pas la trace que laissera le jeu dans le futur.
C'est vrai.
Elle le définit pas de façon définitive, bien sûr que.
Non, elle pourra servir d'exemple en mode regardez, ce jeu, on l'attendait, puis en fait, c'était de la merde. On va en entendre parler, on a entendu beaucoup parler pour Cyberpunk, on l'attendait quand il est sorti, c'était dans un état déplorable. Aujourd'hui, c'est tout simplement un des meilleurs jeux de ces dernières années, parce qu'il a été terminé correctement. Pareil pour No Man's Sky, qui est un jeu qui est extrêmement bien reçu aujourd'hui, près de 9 ans après sa sortie, parce qu'il a été terminé. Enfin, en tout cas, il a été continué.
C'est ça.
Jusqu'à atteindre quelque chose qui atteint peut-être pas le niveau de hype qu'il avait à l'origine, mais qui le fait rentrer dans la classe des très grands jeux.
Oui, bien sûr. Hein. Et puis voilà. Par exemple, tu vas avoir des jeux qui ont bénéficié d'une énorme hype et dont personne se souvient aujourd'hui parce que c'était.
C'était pas aussi bon que ça, ou alors ça a été remplacé par un truc mieux.
Ou parce que c'était scandaleux.
Ou parce que c'était mauvais.
Typiquement, The Day Before a eu une énorme hype et le jeu, globalement, quasiment n'existait pas, tu vois.
Ça mériterait d'être un peu plus effectivement évoqué.
Mais tu vois, c'est pour ça que. Voilà, c'est trop aléatoire, tu vois.
Ouais, bien sûr.
C'est pour ça que voilà.
C'est pour ça qu'effectivement l'article je trouve trop défaitiste là-dessus, trop négatif sur le concept de
voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, je comprends d'où il vient, mais pour moi en fait, il tape un peu un côté.
Mais la question est intéressante amène une discussion qui est pas inintéressante, mais qui va devoir s'arrêter là malheureusement, mais qui mérite en soi d'être réévoqué un jour.
Eh bien écoute, Romain, je te remercie une fois de plus d'animer cette émission en même temps que tu la réalises, pendant que tu me regardes lire des trucs.
Oui, et puis de temps en temps j'interviens. Des fois je dis des trucs. Merci.
Merci à toi.
À la semaine prochaine,
on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast. le nerf de la game, et bien sûr Radio Canu pour l'accès au studio.
Bonsoir à tous.
Salut.